vous font réagir. Jusqu'à 15h, vous écoutez Drainville PM au réseau Cogeco.
On entend de plus en plus parler de ces affaires de violence, de ces incidents violents au Mexique qui sont liés, bien sûr, à la guerre que se livrent les narcotrafiquants là-bas. Je fais un petit détour pour vous raconter que j'ai habité là-bas, moi, pendant 2 ans. Au début des années 2000, j'étais correspondant donc pour l'Amérique latine. Et donc, la famille est installée à Mexico, dans la capitale. J'étais là avec les deux plus jeunes et Martine. Et donc, je connais quand même assez bien le Mexique et le fait que c'est un pays qui est extraordinaire, notamment pour son climat, ses gens, mais c'est aussi un pays où il y a beaucoup, beaucoup de corruption, notamment chez les forces de l'ordre. Tu peux pas vraiment te fier un policier au Mexique. Et il y a aussi de plus en plus ces dernières années d'affrontements entre les narcotrafiquants qui font des milliers, des dizaines de milliers de morts. Et là, alors, c'est très pollué, Mexico, vous le savez. Alors, une fois de temps en temps, mettons aux 2 mois à peu près, il fallait sortir de la ville pour permettre aux enfants de se nettoyer, littéralement, de se nettoyer les voies respiratoires et tout le reste. Et là, pendant les 2 premières journées, on arrivait... Alors là, on allait où? On allait à Acapulco. On sautait dans notre Volkswagen, puis là, on partait à 5, puis on roulait pendant 5 heures de Mexico jusqu'à Acapulco. Puis là, on se louait un petit endroit, puis là, les enfants se nettoyaient le système là, pendant les 2 premières journées sur le bord de la plage. Là, ça sortait là, de partout. Je vous ferai pas de dessin, mais c'était vraiment le résultat de la pollution. Là. Et là, les voies respiratoires se dégageaient et tout le reste. Acapulco, aujourd'hui, là... Tu vas plus en vacances, là, hein? Vous avez remarqué que ça fait quelques années qu'on n'entend pas parler. Il n'y a pas personne autour de nous qui va à Acapulco. Pourtant, c'était la destination touristique des Québécois pendant très longtemps, Acapulco. Pourquoi? Ça ne l'est plus. Mais parce qu'il y a eu des affrontements entre bandes de narcos. Il y a eu des morts. À un moment donné, il y a eu une scène affreuse. Ça a tué. Cette scène-là a fait plus pour tuer le tourisme à Acapulco, je pense, que n'importe quoi d'autre. À un moment donné, il y a un groupe de narcos qui avait décapité un certain nombre de personnes puis il avait mis les têtes décapitées là, en dessous d'un viaduc. Je me rappelle encore de cette image-là. Donc, Acapulco, ça, comme destination touristique, ça a été tué par la guerre des narcotrafiquants. Et là, il y a de plus en plus de violence entre narcotrafiquants qui se déplacent à Cancun. On n'entend pas trop parler parce que le gouvernement mexicain n'a pas intérêt à ce que ça se sache. Mais les médias britanniques ont fait état hier de 9 meurtres en 36 heures à Cancun, ce qui porterait à 100 le nombre de décès liés au cartel des drogues depuis le début de l'année à Cancun. Et là, le gouvernement mexicain n'en parle pas trop parce qu'ils ne veulent pas tuer Cancun, puis Playa del Carmen, puis Riviera Maya comme destination touristique. Là. Puis Dieu sait qu'on est nombreux à y avoir été. Alors là, on veut faire le point avec vous là-dessus. On va faire une petite entrevue, puis après ça, on va prendre vos appels 790-9850 par texto 98985 ou encore Drainville à commercial 985fm.ca. Puis je vais vous demander, est-ce que ces histoires, d'abord, les voyez-vous passer? Est-ce que vous avez des amis qui vous les ont racontées? Est-ce que ça commence à peser dans votre décision de choisir votre destination soleil? Est-ce que vous commencez à dire, le Mexique, pas sûr là que je veux y aller, je vois les risques augmenter? Ou est-ce que ça vous passe 100 pieds par-dessus la tête puis vous voyez aucun problème, vous n'avez pas vraiment vu de difficulté? Commencez à penser à ça. Puis en attendant, ben on va aller rejoindre Paul Arsenault, qui est titulaire de la chaire de tourisme Transat et directeur du réseau de veille en tourisme. Il est aussi professeur en gestion des entreprises et des organismes touristiques au département de marketing de l'École des sciences de la gestion à l'Université du Québec à Montréal. Bonjour, M. Arsenault.
Bonjour, M. Drainville.
Vous m'avez entendu mettre la table.
Bien sûr.
Hein, comment vous réagissez à ce que je viens de dire, là?
Ben, écoutez, d'emblée, je réagis en disant que vous avez agi quand vous habitiez là au début des années 2000, comme les Mexicains. Et le danger actuellement pour les touristes, il est, à mon avis, relativement marginal. C'est-à-dire que vous l'avez très bien décrit la chose, effectivement, les narcotrafiquants sont en guerre incessante avec un niveau de cruauté assez spectaculaire.
Vraiment.
Et je pense que ça mérite d'être mentionné. Je pense que les touristes ont trouvé sur la plage un cadavre en début d'année. C'est assez spectaculaire. Cela dit, les Canadiens, globalement, vont dans 3 pays dans les Caraïbes, incluant le Mexique. Donc, au Mexique, c'est plus de 2 millions de personnes par année. Et personne n'a été tué, ni parce qu'il a été enlevé, kidnappé, ni parce qu'un autocar aurait été arrêté de touristes et pris comme otage, ou encore moins avec des balles perdues. Alors, si on regarde à l'échelle de la planète...
Attendez un peu, là, vous avez dit on va dans trois pays, donc j'imagine les deux autres étant...
Cuba également et la République,
Dominicaine. Voilà.
Donc ça, c'est l'espèce de triangle d'or du Sud.
Oui.
Alors, on fuit cette jolie température qu'on avait encore ce matin. et on parle d'à peu près 5 millions de voyages de Canadiens dans ces trois pays-là. Donc, c'est pas rien.
D'ailleurs, sur ces 5 millions, probablement une majorité ou pas loin du Québec, là, hein? Les Québécois...
Québécois... Les Québécois sont... on est particulièrement avec les Ontariens, on est particulièrement attirés par le Sud, moins les gens de la côte ouest, vous avez raison. On doit représenter sur les 2 millions au Mexique, pas loin d'un million, je crois. Pour ce qui est de Cuba, ça doit être 1,2 million. Dans ces eaux-là, on est à peu près... effectivement, on est des grands consommateurs de plage et de soleil. Et ce que je disais tout à l'heure, vous vivez comme un résident. Si on regarde les niveaux de danger tel que le gouvernement canadien le présente, en partant, il nous fait peur, le gouvernement canadien. Il nous dit de prendre une mesure de sécurité normale. Après coup, il va nous dire de faire preuve d'une grande prudence. C'est vrai, preuve d'une grande prudence, c'est vrai pour à peu près la moitié de la planète, incluant la France, le Royaume-Uni, même la Belgique. Et le Mexique est dans cette catégorie-là avec ce qu'on appelle des avertissements régionaux. Ces avertissements régionaux-là, c'est de dire, effectivement, ne sortez pas dans des quartiers, dans des villages sur la côte ouest du Mexique ou au nord, ou ne vous promenez pas en automobile d'une ville à l'autre. Ce qui est, de toute manière, puisque les gens vont surtout en tout inclus quand ils vont au Mexique et dans la Caraïbe, c'est la très, très, très grande majorité, c'est 98% des gens qui voyagent, des voyageurs d'agrément, là, pas des voyageurs d'affaires, qui voyagent comme ça.
Alors, ce que vous dites, Paul Arsenault, ce que vous dites, c'est que comme on va dans des tout inclus qui sont pas mal enclavés, là, t'es autonome, hein, ta bouffe est là, la plage et tu y as accès par le complexe touristique, t'es pas obligé de sortir du complexe. Ce que vous dites, c'est que tout ça fait en sorte qu'on vit un peu en autarcie, puis on limite de beaucoup notre risque parce qu'on n'est pas vraiment en relation ou en lien ou en contact avec le reste de la société mexicaine, là.
Exactement. Mais prenons-le à l'inverse, un pays qui est tout à fait sécuritaire, les États-Unis, avec lesquels on n'a pas de difficulté. J'aurais le même comportement, moi, comme touriste, le soir dans certains quartiers de Chicago ou de Washington, où, une fois le soir tombé, je n'irais pas, et je risquerais de la même façon de tomber entre des gangs de rue ou des groupes criminalisés en bagarre entre eux ou avec les forces de l'ordre, et je serais tout aussi en danger, c'est-à-dire, je ne le pas. De la même façon, vous parlez d'Acapulco, effectivement, si j'avais à voyager en famille à Acapulco ou même à Puerto Vallarta, je pense pas que je sortirais le soir dans le village ou dans la ville, dans certains quartiers, et je ferais très, très, très attention. Alors, à cet égard-là, encore une fois, comme je vous dis, c'est que c'est beaucoup plus spectaculaire, mais en termes de... et les nombres de gens qui ont été tués au final, liés au narcotrafic, effectivement, c'est énorme. Là.
Mais M. Arsenault, est-ce que les Mexicains, le gouvernement mexicain a tiré les leçons de ce qui s'est passé avec Acapulco? Parce que, comme le dit quelqu'un qui est cité dans le papier de Marie-Ève Dumont puis d'Hugo Duchesne aujourd'hui, ils veulent pas, le Mexique veut pas perdre la Riviera Maya comme elle a perdu Acapulco.
Exactement. Et vous avez raison. Et en plus, d'un point de vue strictement canadien, on est une proportion appréciable, la côte ouest était relativement loin. C'est-à-dire, c'est les gens, je disais tout à l'heure, c'est le Québec et l'Ontario. Au final, ce qui s'est développé dans le coin de Cancun, Playa del Carmen, était beaucoup à l'abri et beaucoup moins densément peuplé par les Mexicains. Alors, c'est sûr qu'ils ne doivent pas perdre cette région-là. Ça serait catastrophique, mais alors là, tout à fait catastrophique parce que plus de touristes, ça veut dire beaucoup d'emplois perdus, beaucoup de retombées économiques.
J'ai un chiffre, oui. Bougez pas.
Allez-y.
Là. Cancun, c'est la vache à lait du tourisme mexicain. Cancun a attiré 16 millions de touristes sur un total de 35 millions de touristes au Mexique. Donc, on pourrait dire, là, grosso modo, Cancun puis le Yucatan, c'est à peu près la moitié de l'industrie touristique mexicaine. C'est 5 millions d'emplois, le tourisme au Mexique. Fait que juste Cancun, là, si on fait une règle de 3, c'est plus de 2 millions d'emplois. Le problème, je vais vous le dire, M. Arsenault, pour y avoir vécu, Le problème, c'est que les forces de l'ordre puis le système de sécurité est gangréné par la corruption et on peut pas vraiment... Le problème des Mexicains puis du gouvernement mexicain, c'est qu'ils peuvent pas vraiment se fier sur les forces de l'ordre pour lutter contre les narcotrafiquants parce que les narcotrafiquants ont à bien des égards infiltré les services policiers puis les services de sécurité. Et donc, si ça se déplace vers Cancun, vers Playa, vers Riviera Maya... De compter sur les forces de l'ordre pour mettre de l'ordre dans la guerre entre les narcos, ça, c'est illusoire. Il faut en fait que les narcos se disciplinent et ne foutent pas le bordel dans cette industrie-là parce que ultimement, c'est eux aussi qui vont payer pour ça, là.
Et j'imagine qu'au final, on retrouverait de toute façon l'armée, parce que c'est à peu près le seul moyen de remettre de l'ordre derrière tout ça. Et vous savez, un petit truc, vous le savez très bien, vous l'avez mentionné, le problème de la corruption quotidienne des forces de l'ordre. Pour ceux qui voyagent, le gouvernement canadien le dit très clairement dans ses avertissements voyageurs, si un policier vous demande, veut vous remettre un ticket et veut vous faire payer comptant ou déposer votre passeport, vous ne le faites jamais. Vous exigez une contravention en bonne et due forme et vous allez la contester au bureau touristique le plus près parce que c'est une arnaque. C'est-à-dire que le danger de se faire arnaquer est encore plus grand par un policier que de tomber sous les balles d'un narcotrafiquant, une balle perdue, quoi.
Absolument. J'ai un autre chiffre ici sous les yeux. 2017, on parlait à ce moment-là d'une année record pour les assassinats au Mexique. Juste pour les sept premiers mois, de janvier à juillet, on en comptait 14 000 assassinats contre 11 000 l'année précédente. Et à Riviera Maya, dans le Quintana, il y avait eu tout près de 200 exécutions au début de 2017, 124 à Cancun, 42 à Playa del Carmen. Ce qui est vraiment fascinant, M. Arsenault, et je réitère là, mon appel aux auditeurs, là, si ça vous tente de participer à cette discussion-là, vous allez pouvoir le faire dans un instant. 790-9850, Drainville à commercial, 985FM.ca, 98985 pour ce qui est du texto. J'allais dire, ce qui est fascinant, c'est que si ce n'était pas des avertissements des gouvernements américains, américains ou canadiens, parce qu'il faut rappeler que le gouvernement du Canada a renouvelé son avis de sécurité pour ce qui est d'Acapulco récemment, déconseillé aux touristes canadiens de s'y rendre. Si c'était pas de ça, on saurait pas grand-chose de ces violences-là. C'est gardé très hermétiquement par le gouvernement mexicain qui ne veut pas décourager le tourisme, justement.
Ça dépend du point de vue dans lequel on le regarde. Vous avez raison, je suis convaincu que le gouvernement est très au fait de ces chiffres-là et n'en fait pas la publicité pour les raisons que vous avez mentionnées. Si on regarde de l'autre bout de la lorgnette, est-il dangereux, si on part dans un tout-inclus n'importe où sur la planète, de mourir en voyage? La réponse est non. Et si on est pour mourir en voyage, les deux causes et de loin en première position, c'est un accident de la route, donc oublier de regarder en traversant la rue, de se faire ramasser par une bagnole ou de mûrir d'un infarctus. Et on est très loin en termes de danger des pays qui sont à éviter tout voyage, là, la Somalie, le Yémen, l'Irak, la Corée du Nord.
C'est clair, c'est clair.
On n'est pas dans cet univers-là. Donc, je me pose un peu la question, quel genre de... quand je vous disais tout à l'heure, les niveaux de danger, on est rapidement là entre faire preuve d'une grande prudence, éviter tout voyage non essentiel, éviter tout voyage. C'est ça que nous dit notre gouvernement. Il dit ça pour à peu près 150 pays. À l'inverse, je trouve qu'il y a une espèce de campagne de peur. C'est-à-dire que quand on voyage, que ce soit n'importe où, même aux États-Unis, ce que je vous disais, à Washington ou à Chicago, avant de voyager, si on sort d'un tout inclus ou de quelque chose où on est très protégé, il y a des normes et de sécurité, il y a des comportements sécures à faire. On ne se promène pas avec des signes ostentatoires de luxe, on ne se promène pas avec une montre de luxe dans les pieds, on ne se promène pas avec des souliers qui valent 300 ou 400 $. Ça va être vrai, effectivement, là-bas. Et encore une fois, ces meurtres-là sont tous liés à des meurtres, internes. Là. On n'est pas en train de faire peur aux touristes.
Non, c'est vrai.
Faire des prises. Donc, à cet égard-là, je me demande quel serait l'intérêt de dire pour le pays, vous avez raison, c'est-à-dire que d'un côté, faire peur aux touristes, c'est démolir une partie importante de l'économie, très importante dans le PIB, et de l'autre, c'est faire fuir pour un risque qui demeure très théorique. Là.
Très bien. Paul Arsenault, c'est très long, là, mais je vais dire titulaire de la chaire de tourisme, non, c'est votre titre et toutes vos fonctions, titulaire de la chaire de tourisme Transat. Hein, ça va, ça?
C'est suffisant.
C'est suffisant. Merci pour l'entrevue.
Merci à vous, M. Dréville.
Alors, déjà, beaucoup de textos. Les lignes sont pleines, donc on va faire la pause pour pouvoir prendre vos appels. Mais j'ai ici un texto. J'ai été en vacances à Playa del Carmen récemment. J'ai pas vu de policier du tout durant mon séjour à l'hôtel. On m'a expliqué que c'était la mafia locale qui s'occupait de la sécurité, ce qui nous a assuré que nous n'aurions aucun problème durant notre séjour. J'ai trouvé ça spécial, mais en effet, malgré la non-présence des policiers, nous n'avons eu aucun problème de sécurité durant notre séjour avec qui que ce soit. C'est intéressant. C'est la première fois que j'entends ça, moi. On s'arrête. Au retour, les appels.
Des sujets qui vous touchent et qui vous font réagir. Jusqu'à 15h, vous écoutez Dréville PMO au réseau Cogeco.
Alors, courriel de Pierre. En effet, en voyant la photo ce matin du cadavre sur la plage d'Acapulco dans le Journal de Montréal, c'est pas très inspirant d'aller au Mexique ces temps-ci, surtout que les plages sont actuellement envahies par des algues, dit-il. Il parle aussi effectivement de cet explosif, de cette bombe qui a été découverte à un moment donné sur un traversier entre Playa del Carmen et Cozumel. Il y en avait été question il y a quelques semaines de ça. Bateau très fréquenté par les touristes, dit-il. Alors, il dit, pour nous, c'est fini le Mexique, c'est direction République dominicaine et Cuba. On s'en va rejoindre Robert, qui est résident de Playa del Carmen, justement. Bonjour, Robert.
Bonjour, M. Dréville, ça va bien?
Ben oui, merci de nous écouter.
Tous les matins, tous les après-midi, M. Dréville.
C'est super. Alors, comment ça va à Playa del Carmen?
Ça va. En ce moment, je vous dirais que c'est un beau 34 degrés Celsius à part humidex avec le ciel bleu, bleu, bleu. On a eu deux jours de pluie depuis le 9 mars, c'est pour vous dire.
Faites pas votre haïssable. Nous autres, ça s'en vient. Là, ils nous l'ont promis. Ils nous ont promis 14 ou 15 degrés en fin de semaine avec du soleil. Là. Fait que nous autres ici, on va avoir notre tour.
Je vous le souhaite.
Alors, Playa del Carmen, là, sentez-vous qu'il y a un petit peu plus d'insécurité qu'auparavant ou sentez pas ça du tout?
Ben, écoutez-moi, ça va faire, en octobre prochain, ça va faire 9 ans que moi je reste ici à l'année. Je retourne au Québec un mois et demi seulement durant l'été. Et puis, depuis une couple d'années. Et puis, je peux vous dire que, en ce moment, les Mexicains et les expatriés comme nous qui vivent ici, on ne ressent absolument rien à Playa del Carmen. Je vous dirais pas que ça brasse pas à Cancun, mais je vous dirais que la Playa, c'est relativement calme. Et si vous me permettez, je m'en vais ouvrir une parenthèse. Le courriel tantôt, vous avez reçu de quelqu'un qui disait qu'il y avait une mafia locale qui gérait la sécurité dans les zones hôtelières.
Oui.
Moi, je peux vous dire, en toute connaissance de cause, parce que je demeure ici et j'étais parti de la Chambre de commerce de Riviera-Maya, que c'est des agents en civil qui se promènent dans les hôtels pour vérifier, et non, c'est parce que la dernière chose que les directeurs d'hôtels dans les zones hôtelières veulent voir, surtout à Playa del Carmen, parce que c'est comme un genre de gate community qui s'appelle Playa Car, ben, la dernière chose que les directeurs d'hôtels veulent voir, c'est des camions de police, parce qu'ils savent très bien que ça peut amener les touristes à sentir un certain inconfort et une certaine insécurité.
D'accord.
Mais moi, je peux vous dire qu'en ce moment, c'est relativement calme. Pour revenir, si vous me permettez, à l'incident qui s'est passé, bien, en fait, c'est pas un incident, l'explosion qui s'est passée sur le traversier qui relie Playa à Cozumel.
Oui.
Je peux vous dire qu'à ce moment-là, les Mexicains, dont beaucoup de mes voisins, ils étaient insécurs parce qu'ils disaient, si jamais c'est le cartel, ou du moins deux cartels qui s'affrontent, puis qu'il y a des victimes collatérales chez les touristes, là, ça ne fera pas notre affaire, parce qu'on sait très bien, autant que durant la guerre des motards au Québec, quand ils se sont entre eux autres, il n'y a pas eu de problème. Mais à la minute qu'il y a eu une victime, je pense au petit, oui, Daniel Desrochers,
oui, oui, oui.
Ben, le gouvernement s'en est mêlé justement pour sécuriser la population. Donc ici, ils ont fait une enquête exhaustive et ils ont découvert que la bombe qui avait été fabriquée avait été déposée par le fils du patron des deux traversiers qui traversaient à Cozumel.
Donc, ça avait rien à voir.
Nouveaux traversiers.
Ça avait rien à voir avec les narcos, dans le fond. C'est ce que vous dites, Robert?
Pas du tout.
Très
pas
bien.
Du tout. C'était un job d'assurance, en fait, qui s'est passé. Puis
bon.
Ça, les Mexicains, à partir de ce moment-là, ils ont, je vous dis, là, ils ont commencé à souffler tranquillement.
Merci, Robert, pour votre appel et continuez à vous chauffer à bedaine en pensant à nous un petit peu, s'il vous plaît.
Écoutez, vous êtes la bienvenue. Vous êtes la bienvenue. Puis moi, je dis aux touristes, M. Dréville, je vous le dis, M. Dréville, je l'ai dit à tous vos auditeurs. Là.
Correct.
Moi, je ne resterai pas ici, ça serait dangereux. Puis mes enfants, mes petits-enfants, ils n'iraient pas me voir. Impossible.
Merci, Robert. On s'en va rejoindre Alain. Bonjour, Alain. Alain, est-ce que vous êtes là? Sinon, c'est Jean-François. Bonjour, Jean-François. Jean-François, une fois, Jean-François, deux fois.
Je suis là.
On vous écoute, mon cher.
Allô?
Oui, allez-y, mon cher, bonjour. Allez-y, on vous écoute.
Monsieur Drainville?
Vous êtes en onde, oui.
Alors, on va aller rejoindre Robert l'année prochaine. On part au mois de juillet pour visiter la Riviera Maya, mais pas dans les resorts. Donc, on se loue une voiture et on fait Tulum, Akumal, Puerto Morelos et Playa del Carmen en vue de se magasiner une belle villa.
Oh!
Au Québec.
Ah, vous allez quitter le Québec. Alors,
oui, tout à fait.
Vous êtes un jeune retraité, c'est ça?
Non, on veut partir. En fait, à Tulum, il y a une espèce de petit pôle d'attraction au niveau du yoga, la méditation, croissance personnelle et tout. Et on veut réorienter un peu notre carrière tout en continuant nos activités professionnelles à distance. Mais je suis un petit peu tanné du là où le Québec s'en va, mais ça, c'est un autre débat, c'est pas le sujet. Et on a beaucoup communiqué avec des gens sur place via Facebook, entre autres des gens comme Robert.
Oui.
Et on sent pas du tout l'affolement, là. Et oui, c'est spectaculaire, mais à Détroit, quand il y a une tuerie puis qu'il y a quatre morts dans un bar, ça fait pas les nouvelles. Par contre, si c'est sur la 5e avenue à Playa del Carmen, là, c'est certain que le monde entier va le savoir. Et on sent pas du tout. Oui, on se renseigne. Oui, on regarde des articles de fond, entre autres, dans Guardian.
Oui.
Et dans Newsweek, il y a eu des gros articles sur des expropriations.
Mais bref, Jean-François, ça ne vous décourage pas. Vous allez aller de l'avant avec votre plan, avec votre projet.
Non, ça ne nous décourage pas du tout. On a le choix entre le Nicaragua, qui nous plaît beaucoup, qu'on va visiter d'ailleurs, mais c'est un peu loin de l'aéroport et c'est un petit peu loin de ma plus jeune...
Jean-François, arrêtez le time out parce que là, vous nous titillez. On vous souhaite bonne chance. Et on vous envie un peu. Il y a quelqu'un qui nous écrit, il dit « Bonjour, M. Drainville. Étant une jeune maman ayant mes deux jeunes enfants, j'ai pas envie d'aller dans des secteurs aussi à risque. Je préfère payer plus et aller ailleurs dans le sud où j'aurai la sensation d'avoir été mieux protégée. J'avais pas entendu parler de ces histoires-là. Merci de nous en parler. » On va aller rejoindre. C'est Carole. Bonjour, Carole.
Bonjour.
Allô.
M. Drainville, ça va bien?
Très bien, on vous écoute.
Oui, à Kinzo, moi, ça fait 9 ans que je vais à Acapulco.
Oh!
Et moi, je vous le dis, regardez, ça fait peut-être 2 semaines, 3 semaines qu'on est revenu, là, parce que mon conjoint, il va là 5 mois par année, puis moi, j'y vais à peu près 2 mois par année. Moi, je suis allé 3 mois cette année. Puis je vous le dis, moi, ce qui compte, je comprends pas, parce que j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu aucune... On est super bien reçus, les Mexicains sont super sympathiques. J'ai jamais vu aucun incident qui s'est passé là. Il y en a, mais... Bon, tu sais, comme le monde dit, allez pas dans des places, ça veut pas d'affaires à aller. On s'en va pas dans les montagnes pour aller se ramasser avec des problèmes comme ça, parce que la plupart du temps, c'est toujours du monde du cartel qui se font pogner. Mais les touristes, nous, on est sur un terrain de camping là-bas, puis on est au-dessus de 300 Québécois, puis mon Dieu, qu'on se fait beaucoup de plaisir, puis on s'est jamais senti en danger. Moi, je me suis jamais senti en danger.
Ah, bien, je suis content que vous nous appeliez. Merci, Carole, parce que je pensais, moi, qu'Acapulco, là, c'était... tout le monde avait mis une croix là-dessus, mais visiblement, Carole, c'est pas le cas pour vous, pas pour votre conjoint non plus, puis vous nous parlez de plusieurs centaines de Québécois qui sont là-bas. Très bien, ça complète l'information. On s'en va rejoindre Maxime. Bonjour, Maxime.
Bonjour, ça va bien?
Très bien, vous écoute.
Ben oui. Moi, dans le fond, je voulais juste faire un commentaire. Je reviens de Puerto Vallarta avec ma petite sœur jointe et mon bébé de 17 mois. Et puis, on a loué avec sur Airbnb avec les locaux. Puis, on n'a eu aucun problème. On était à l'extérieur du centre-ville de Puerto Vallarta.
Mm-hmm.
On n'a senti aucun danger. On s'est promené tous les jours. On a pris Uber, on a pris le taxi. On est allé partout. Parce que les gens disent là, que c'est dangereux. Puis les gens nous avaient dit de ne pas sortir. Il n'y en a pas de danger.
Il n'y en a pas eu de danger. Très bien, Maxime. La ligne n'est pas super. Merci pour l'appel. Donc ça, c'est Puerto Vallarta. C'est une autre zone. Hein? On sait ça. Là. Guadalajara, Puerto Vallarta. On s'en va voir Martin. Bonjour, Martin.
Oui, bonjour. Ça va bien?
Très bien. On vous écoute.
Oui, moi, j'ai été à Cancun du 21 au 28 mars. Puis c'était vraiment pas plaisant. Il y a des gens de mon hôtel qui sortaient dans les bars, ils ont mangé des volets pour se faire voler leurs bijoux. Il y a eu 12 morts dans la semaine que j'étais là. Et on s'est fait harceler par les faucheurs là, pour la drogue, c'était incroyable. On était moi et un collègue de travail, puis C'était l'enfer pour la drogue. On s'est fait harceler sans arrêt.
Ah ben ça, c'est intéressant, là, parce que là, vous voyez-vous, vous nous donnez un tout autre portrait. Donc, vous étiez à Cancun récemment et vous dites qu'il y a eu au-dessus de 10 meurtres pendant que vous étiez là. Et donc, vous en avez entendu parler, visiblement, si vous l'avez su, là.
On a entendu vraiment. On a entendu parler tous les jours pendant qu'on était là. C'était même épeurant, les policiers à la plage, là, avec leurs quatre roues. Les policiers étaient au-dessus. Je pense qu'ils étaient même plus épeurants que... Les bandits, là, ça n'a pas été une semaine vraiment pas plaisante. Là, et les plages sont publiques. J'étais quand même dans un grand hôtel. Direct à l'hôtel, aussitôt que tu mettais les pieds dans le sable, là, les pushers, là, ils nous harcelaient pour nous vendre de la cocaïne, du pot. Je vais souvent dans le sud, puis c'est la première fois que je vois ça comme ça. Là, c'était une semaine vraiment incroyable.
Ben, Martin, je suis très content que vous nous appeliez parce que vous nous donnez un peu l'autre côté de la médaille. Étiez-vous, juste en terminant, dans un tout inclus?
Oui, au Grand Oasis Sen. C'est quand même un pas pire hôtel. Puis, direct à l'hôtel, là, c'était incroyable. Pour la drogue, là, quelqu'un qui veut se geler, là, c'est la meilleure place à aller.
Et syncope. Mais merci d'avoir appelé, Martin. Ouais, c'est ça, là. On commence à avoir une vision, mettons, plus complète. Voyez-vous, j'ai un texto ici. Nous avons été 4 fois à Playa del Carmen dans la dernière année, 2 fois en tout inclus, 2 fois dans un appartement dans un quartier vraiment pauvre. Il se passe pas 5 minutes sans voir de policiers. Nous nous baladons beaucoup car on préfère se mêler aux locaux, se mêler aux gens de la place, que d'être à l'hôtel. Et on s'est toujours senti en sécurité. Par contre, pas de bijoux de luxe, rien qui attire l'attention. Et on n'oublie pas que nous sommes chez eux, en visite. Ça, c'est très, très important. Il ne faut pas attirer l'attention avec l'argent ou les objets matériels de luxe. Là. C'est dans ce temps-là que tu cours un petit peu après le trouble. On s'en va rejoindre... Ah, on s'en va à la pause, me dit-on. Voyez-vous? Ben, on a quand même eu quelques bons... c'est très, très varié. Plusieurs régions qui sont couvertes. Ça vous donne un peu une idée. Tu sais, l'idée, c'est pas de faire peur à personne, là. Hein? L'idée, c'est de vous informer. Vous le savez. Puis après ça, vous prenez vos décisions en conséquence. On va s'arrêter parce que au retour, on va parler des naissances au Québec qui sont en baisse, qui ont diminué. En fait, là, on est rendu à peu près là, 1,5 enfants par famille. Et la question que je vais vous poser, puis vous pouvez déjà commencer à nous appeler, pourquoi est-ce que vous ne vous rendez pas à 2 enfants? Parce que là, visiblement, si on est à 1,5 enfants par famille, c'est qu'il y en a parmi vous qui ont décidé d'arrêter à 1. Il y en a d'autres qui ont décidé de ne pas en avoir du tout, ça aussi. Mais mettons... Très spécifiquement, vous en avez eu un, mais vous ne voulez pas vous rendre à 2. Pourquoi vous ne voulez pas avoir un 2e enfant? Appelez-nous pour nous donner les raisons. Est-ce que c'est matériel? C'est le temps? C'est quoi la raison? 790-9850, Drainville à commercial, 985fm.ca. On va faire un petit peu le point là-dessus avec vous. Vous allez être un peu notre focus group dans un instant.